chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce libre journal des amitiés françaises pour 3 heures d'émission en direct et comme toujours deux parties à cette émission qui sont toutes les deux tenues en Zoom. Eh bien, nous recevons tout d'abord Yann Le Boeck, qui est professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne, pour son livre publié aux éditions Talendier, Les Romains au combat, grandes batailles et grands sièges. C'est la deuxième émission que nous consacrons à l'histoire militaire de Rome, en quelque sorte. Et puis, à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir Georges Ayache, qui est diplomate, historien, pour le livre qu'il vient de publier aux éditions Perrin, Les Roosevelt, une dynastie américaine. Je rappelle que Laurent est au standard, au téléphone, et qu'il sera ravi de prendre tous vos messages, vos questions que nous proposerons à nos invités. Je rappelle à cet effet le mail, le courrier électronique de Radio Courtoisie, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone, donc 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Et puis, tout d'abord, un de nos auditeurs nous signale une intéressante et innovante exposition, avec un film d'ailleurs, qui évoque le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. Vous savez ce qu'il nous reste à Saint-Germain, c'est le Château-Vieux. Eh bien, il y a eu un Château-Neuf qui, du XVIIe siècle, qui a été détruit, qui n'existe donc plus, et cette exposition lui est consacrée, c'est jusqu'au 5 avril, cela a été prolongé, donc c'est jusqu'au 5 avril, et c'est au musée municipal du Catel, à deux pas de la gare, du RER A, à Saint-Germain-en-Laye, donc je répète, une exposition sur le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, jusqu'au 5 avril, au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, donc du Catel, et c'est juste à côté de la gare RER A, donc de Saint-Germain-en-Laye. Nous abordons maintenant donc cette première partie d'émission. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une grande découverte archéologique vient d'être faite en Andalousie, en Espagne. On y a découvert, à l'occasion de travaux, un os de pied d'éléphant datant du 3e siècle avant notre ère. Donc cet os de pied d'éléphant aurait bien sûr appartenu à l'un des mammifères, et évoque très tout naturellement la figure d'Hannibal franchissant les Alpes avec justement son troupeau d'éléphants de guerre. Alors ça appartient effectivement depuis longtemps à l'imaginaire, un peu au mythe de l'histoire. Eh bien, c'est une réalité depuis qu'on a trouvé. C'est une pièce qui doit faire peut-être une dizaine de centimètres, qui a été découverte bien sûr, comme souvent en archéologie, par hasard, et qui nous dit, alors monsieur Le Boeck intervient.
De quand date-t-elle, avez-vous dit?
Elle date, alors pardon, oui, monsieur Le Boeck intervient dans l'introduction, mais c'est pas grave, on va parler de ce pied d'éléphant. Eh bien, ça date du 3e siècle avant Jésus-Christ, et ça a été identifié par des analyses au carbone 14. Et donc les spécialistes l'identifient comme étant justement l'un des restes de la trentaine. Il y avait seulement une trentaine d'éléphants qui ont accompagné en effet Hannibal dans la remontée de l'Espagne et la traversée des Alpes pour fondre après sur l'Italie. Eh bien, ce bout d'os d'éléphant, le pied d'éléphant, authentifie en quelque sorte ce périple, cette conquête d'Hannibal qui a été faite donc avec ces éléphants, cette donc trentaine d'éléphants, pour aller vaincre dans Rome, hein, dans un affrontement multiséculaire, parce que Hannibal est sans doute l'épisode principal, mais n'est pas le seul épisode de cette lutte qui a concerné donc Rome à Carthage, et qui se termine au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est quand même extraordinaire quand finalement l'histoire n'est jamais terminée et qu'un simple bout de patte d'éléphant permette de valider toute cette histoire. Et d'ailleurs, ce bout de quelques centimètres, eh bien, on s'imagine les dizaines de milliers d'hommes, à peu près 30 000 qui sont arrivés en Italie, mais un nombre d'entre eux sont restés pour protéger les routes. Et donc la logistique de l'armée d'Hannibal, derrière ce petit bout d'os, eh bien, on s'imagine toute l'histoire avec ces éléphants donc, qui vont soutenir les troupes d'Hannibal dans quelques-unes, pas toutes, parce que les éléphants disparaîtront, semble-t-il, assez vite, dans les victoires d'Hannibal contre, justement, la puissance romaine. Et Hannibal nous avait dit, écrit d'ailleurs, Yann Le Boeck, alors je ne sais pas si c'est de lui ou d'autres historiens ou d'autres analystes, Hannibal valait à lui tout seul plusieurs légions romaines.
Ah, je crois que c'est de moi.
C'est de vous, hein, oui. Oui. Merci encore d'être venu dans cette introduction. Yann Le Boeck, vous dites qu'Hannibal, en effet, valait à lui tout seul plusieurs légions romaines. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir, entre autres, aujourd'hui, si nous arrivons jusqu'à la bataille de Zama. Il fut vaincu par Scipion à la bataille de Zama. Et on se pose d'ailleurs la question, lequel des deux généraux fut le plus grand? Zama, ça fait un peu penser à Waterloo, où Napoléon est vaincu par Wellington. Et ce n'est pas le plus grand, en tout cas, qui l'a emporté à Waterloo. Et Scipion était-il le plus grand? Est-ce pour ça qu'il a vaincu En effet, Hannibal, nous poserons la question à notre invité ce soir. Alors, les guerres puniques, ce sont d'elles dont nous parlons, à travers cette découverte d'os d'éléphant. Eh bien, les guerres puniques sont effectivement la conséquence logique des guerres d'expansion de Rome en Italie. Ces guerres, nous allons le voir, s'étendent sur plusieurs siècles. Mais alors que la conquête du Latium, donc autour de Rome, et de la Campanie, prirent près de 4 siècles, c'est en moins d'un siècle que Rome a réussi à s'emparer de l'Italie. Comment l'expliquer? Comment Rome a-t-il pu ainsi s'imposer alors qu'elle n'occupait, comme d'ailleurs ses tribus voisines, ses adversaires, elle n'occupait qu'une colline du Latium, le Palatin? Et c'est ce que aborde justement dans un livre passionnant Yann Le Boeck, qui nous raconte cette épopée militaire de la naissance de la ville de l'Ours jusqu'à sa chute au 5e siècle. Ce livre, c'est « Les Romains au combat, grandes batailles et grands siècles et grands sièges », pardon, que Yann Le Boeck publie donc aux éditions Talendier. Alors c'est la deuxième émission que nous consacrons à ce livre, en effet. Et lors de la première émission, Yann Le Boeck nous avait résumé les connaissances de base, en quelque sorte, à posséder sur la mer romaine pour comprendre, en effet, ce qui faisait sa force. Ça se tenait à la qualité de son recrutement, à l'entraînement, la formation, bien sûr, sa tactique au combat. Et puis, Yann Le Boeck avait évoqué ceux qui furent ses grands ennemis. Alors, il y a eu, bien sûr, les Gaulois, qui finiront par être vaincus, mais au début, les Gaulois de Brennus, notamment saccagent Rome. Et puis, il y a naturellement les Germains. Et puis, ça nous fait penser à l'actualité immédiate, les Iraniens, ou les Parthes, comme on veut. Et les Parthes, d'ailleurs, n'ont jamais été vaincus par Rome. Alors, est-ce que les Américains vont faire mieux? Yann Le Boeck, je ne sais pas si vous évoquerez ce sujet tout à fait d'actualité ce soir.
Je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui va arriver.
Et puis, vous aviez aussi insisté dans cette émission, comme vous le faites dans votre livre, sur l'importance de la société romaine du service, du sens du service, et aussi un autre aspect plus surprenant, mais qui a été un peu tordu, hein. Il faut bien le dire dans son application, c'est que les Romains étaient très férus du droit de la guerre. Il fallait que, en quelque sorte, le droit et les dieux soient avec eux avant d'engager une guerre. Il reste, en effet, ce que nous n'avions pas traité en parlant des dieux, c'est la question de la religion dont Yann Le Boeck écrit dans son livre qu'elle est omniprésente chez les Romains. Donc, je propose que nous reprenions le fil de notre première émission en évoquant l'importance de la religion dans l'histoire, dans l'armée romaine, dans l'histoire militaire de Rome. Et puis, après avoir évoqué la religion, eh bien, nous entrerons dans l'histoire militaire proprement dite de Rome, celle des grandes batailles, celle des sièges, et puis nous partirons des origines contre les Gaulois, et notamment Brennus, et la lutte contre les Latins, et la lutte contre les Sabins, avec une bataille, nous le verrons avec notre invité, une bataille qui est fondatrice, parce qu'elle explique aussi les raisons de la puissance de Rome, c'est le nombre de ses soldats, le nombre inépuisable de ses soldats qui lui permirent, hein, c'est ça qui permit aussi aux Romains de résister à Hannibal. Et bien cette bataille fondatrice, c'est la bataille de Trifanum en 340 avant Jésus-Christ. Nous l'évoquerons en espérant que nous en ayons le temps ce soir donc avec Yann Le Boeck. Yann Le Boeck, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs.
Eh bien, mais bon, très heureux de vous retrouver en direct. Donc, merci beaucoup à vous pour poursuivre en votre compagnie l'histoire militaire de Rome, les Romains au combat. Alors, vous étiez au courant de cette découverte de pieds d'éléphant en Andalousie, donc du 3e siècle, daté de la guerre punique?
J'en avais entendu parler, mais ça n'a rien d'étonnant puisque les Carthaginois, les Puniques plus exactement, disposer d'éléphants et qu'on sait que Hannibal est parti d'Espagne en 218 avec 37 éléphants.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que en 2026, eh bien, il y a encore des découvertes de ce type qui permettent de confirmer l'histoire et qui ouvrent un petit bout d'éléphants qui nous ouvrent de tels horizons. C'est extraordinaire.
Disons que ce n'est pas très surprenant parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de l'utilisation des éléphants par l'armée carthaginoise et puisque nous savons aussi par plusieurs textes que Hannibal est parti du sud de l'Espagne, ça n'a rien de surprenant. Mmh. Mais effectivement, il est intéressant d'avoir fait cette découverte. Ça ajoute un argument supplémentaire à ce récit.
Alors nous évoquerons bien sûr avec vous donc les guerres puniques avec donc c'est le rôle d'Hannibal et on vous posera la question est-ce que les éléphants ont vraiment joué est-ce que leur emploi a vraiment été décisif ou pas dans les victoires d'Hannibal, ce qui ne fut pas le cas à Zama, puisque à Zama il a été vaincu, mais nous parlerons de ça avec vous lorsque nous aborderons justement ces guerres puniques. Je rappelle, Yann Le Boeck, que vous êtes aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien, que vous êtes professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, vous êtes un spécialiste de l'Antiquité romaine, mais aussi en archéologie, et puis spécialiste aussi de l'Afrique romaine et de l'histoire militaire de Rome. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ce thème, c'est vrai que ça a duré plusieurs siècles, l'histoire militaire de Rome. Vous avez par exemple
8 siècles environ.
Oui, et vous avez écrit sur la bataille d'Alésia aux éditions Talendier. Vous avez écrit aussi sur un certain nombre de généraux, parce qu'il y a eu de très grands chefs de guerre. Certains méconnus, comme Lucullus, qui n'était pas qu'un gastronome, mais qui était un grand général.
Et il n'avait pas que cette qualité, c'était aussi un grand intellectuel, un homme très cultivé, un homme de goût, un esthète. Un personnage tout à fait étonnant.
Et vous avez écrit, oui.
Et dont on a peu parlé, les historiens actuels en parlent peu, à mon avis parce qu'ils n'aiment pas trop son côté aristocratique.
À quel point de vue César aussi était César un aristocrate?
Non, c'était un noble, mais un noble qui s'appuyait sur les simples citoyens. Mmh. Et qui était appuyé par les simples citoyens, alors que Lucullus, lui, était du côté des élites sociales, de l'aristocratie sénatoriale.
En effet, c'est parfaitement déplaisant.
Son meilleur ami, c'est horrible. Ses meilleurs amis comptaient par exemple Cicéron.
Qui a été assassiné, lui.
Qui a été assassiné, ben justement, sur ordre de Marc Antoine. Ces nobles qui étaient passés du côté des saints modestes citoyens pour renverser la table, si je puis ainsi m'exprimer.
Cicéron était un aristocrate parmi les aristocrates. C'est pour ça qu'il l'a payé de sa vie.
Oui, Oui.
Et donc, je rappelle, le Lucullus, vous l'avez publié aux éditions Talendier. Vous avez écrit aussi un livre passionnant sur César, chef de guerre. Ça, c'était toujours Talendier, dans les collections Texto, d'ailleurs. Vous avez évoqué la vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire, toujours chez Talendier. Et puis, vous avez travaillé aussi, parce que c'est on connaît assez peu l'une des raisons de la force des armées romaines, c'était leur marine. Et l'une des causes de la défaite
Effectivement.
punique, c'est la faiblesse de leur marine, justement, et vous avez écrit là-dessus la première marine de guerre
Effectivement.
romaine.
Effectivement. Pendant longtemps, on a négligé cette marine romaine. Les historiens considéraient qu'elle n'avait pas existé en se fondant sur des récits d'auteurs grecs anciens. Et on a finalement découvert j'ai découvert que cette marine romaine était extrêmement efficace parce que d'abord les généraux romains qui étaient aussi bons comme amiraux que comme généraux et les soldats étaient soit tantôt des alliés italiens qui vivaient dans les ports évidemment, hein, des marins des ports grecs notamment, et puis les marins qui vivaient dans les colonies romaines. Les Romains avaient installé des colonies sur le littoral, Ostie par exemple, qui fournissaient des soldats, des marins, militaires en cas de besoin. Et la supériorité des Romains sur l'eau est évidente, parce que dès la première guerre punique, ils ont réussi à s'imposer, mais ils ont détruit en fait la marine punique. Et dès cette première guerre punique, les Carthaginois n'osaient plus sortir quand ils savaient qu'il y avait des navires
Des
romains
navires,
dans le
oui.
secteur.
Ah, nous allons évoquer, en effet, ces événements de la guerre, des guerres puniques, avec le
Dès la
rôle.
première guerre punique, les Romains ont eu la maîtrise de la mer.
Et puis vous avez écrit aussi, toujours chez Talendier, les grands généraux de Rome, dont on retrouve un certain nombre, en effet, de personnages dans votre livre, le livre actuel pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir, Les Romains au combat, grande bataille et grand siège, toujours chez Landier. Et puis pour terminer, Vercingétorix, stratège et tacticien, chez
C'est un
Talendier
aspect qui a
en
été, c'est un
2023.
aspect, cette stratège et tacticien, c'est un aspect qui a été négligé.
Sur Vercingétorix,
Oui,
oui.
les historiens ont cherché beaucoup d'aspects dans quelle mesure il était un noble, dans quelle mesure il était riche ou pas riche, dans quelle mesure il était un Gaulois ou pas un Gaulois. Et quand on fait le récit de cette année extraordinaire qui a été l'année 52 avant Jésus-Christ, on découvre que c'est un bon tacticien. C'est quelqu'un qui sait organiser une bataille, qui sait organiser une embuscade, qui sait organiser un siège. Mais surtout, j'ai découvert que c'était un stratège qui a été capable en une année de mettre en place trois stratégies successives. La première qui consistait à transformer une armée de guérilleros, en fait des bandes de guérilleros en une armée organisée. Ensuite, la stratégie qu'on appelle d'une expression anglaise du pull and push, chasser et attirer, c'est-à-dire il a voulu chasser les Romains du nord de la Gaule et les attirer vers le sud, ce qui libérait la Gaule indépendante évidemment, et il a réussi, ce qui est extraordinaire. Parce qu'on oublie souvent que César était en retraite, bien qu'il ne veuille pas, n'ait pas voulu le reconnaître et ne l'ait pas dit. Et puis enfin, il y a eu la stratégie de l'enclume et du marteau à Alésia, et là, bon, ça n'a pas marché, mais c'était quand même intelligemment conçu.
Yann Leboeck, je vous propose d'aborder, de revenir dans l'histoire militaire proprement dite. Hein, nous reviendrons bien sûr à Vercingétorix, hein, au cours des autres émissions que nous aurons le plaisir, si vous l'acceptez, de consacrer bien sûr à votre livre, hein, puisque l'histoire militaire romaine est à la fois riche et longue. Et donc nous reparlerons naturellement bien sûr, de Vercingétorix, qui fut sans doute, avec Hannibal, l'un des plus coriaces opposants, ennemis de l'armée de Rome et de l'armée romaine. Nous avons déjà d'ailleurs des messages d'auditeurs, nous les remercions. Alors, il y a un auditeur qui évoque justement Hannibal, donc je garde son message lorsque nous reparlerons de la guerre d'Hannibal, sans doute peut-être aujourd'hui, nous allons voir. Nous avons deux autres messages. Alors un auditeur, ça fait un peu référence à votre exposé lors de notre première émission, qui vous demande quelle était la taille minimum pour être légionnaire romain. Est-ce qu'il y avait une taille minimum ? Et vous aviez expliqué que, et vraiment, c'est il y a une vraie sélection. On ne devenait pas légionnaire romain comme ça.
Non, effectivement. La taille minimum, c'était 1m70. Alors, on a des documents qui varient, qui laissent penser que ça pouvait être 1m75, mais enfin, je pense qu'il est plus raisonnable de penser à 1m70.
Et c'est grand pour l'époque ?
C'est grand pour l'époque, mais les légionnaires étaient sélectionnés très soigneusement. Mmh. Et le responsable du conseil de révision, qui justement était chargé de sélectionner les soldats, avait beaucoup de choix. En fait, il ne prenait pour une légion que quelques soldats chaque année. La légion a 5000 hommes, le service est de 25 ans. On ne remplaçait pas tout l'effectif tous les ans. Et en outre, il n'y avait que 25 à 30 légions, 33-35 au maximum, pour tout l'Empire. Ce qui veut dire que dans une étendue de territoire aussi immense, il y avait une population qui était quand même très importante. Et donc, les responsables du conseil de révision avaient un choix très large pour choisir les meilleurs. Et donc, ces légionnaires étaient, en fait, on a pu l'établir assez récemment, les équivalents des athlètes de haut niveau actuel du point de vue physique.
Et puis, un autre auditeur aussi qui pose cette question des prisonniers romains vendus par les Parthes aux Chinois ont reconstruit une ville en Chine. Est-ce vrai ou faux ?
Alors, c'est une possibilité. Oui. Je n'en ai pas, moi, de certitude absolue, oui. Mais c'est très possible. Nous savons que pendant la guerre civile qui a opposé Pessénius Niger, qui commandait l'armée de Syrie, à Septime Sévère, qui commandait le reste de l'armée romaine, Pessénius Niger a fini par être vaincu et un certain nombre de ses soldats sont partis. Alors, on admet en général que certains sont passés en Iran pour survivre, qu'ils ont donné des conseils aux Iraniens pour réorganiser leur armée, ce qui expliquerait que les Romains ont eu des difficultés au cours du IIIe siècle. Et il est possible aussi que d'autres de ces soldats soient allés jusqu'en Chine. C'est une possibilité.
Nous avons un auditeur aussi qui vous interroge sur la retraite de César. Et je vous propose aussi de garder cette question quand nous allons après Gergovie. Hein, retraite après Gergovie, le chemin qu'il aura pris. Je vous propose de garder cette question lorsque nous allons parler, en effet, plus particulièrement, de la guerre des Gaules. Yann Le Boeck, je vous propose d'en revenir donc à votre livre, donc les Romains au combat, et dans toute la première partie du livre, eh bien vous passez en revue un certain nombre de points importants à connaître et qui expliquent aussi la supériorité de cette armée romaine. Vous venez de nouveau de parler de la sélectivité. Importante pour choisir donc des légionnaires de qualité, ce qui explique la force de cette armée. Il y a un autre aspect qui est très important, outre, comme nous l'avions vu, le droit, c'est la religion. Comment se manifestait dans l'armée l'importance de la religion ? Était-ce plus important qu'ailleurs ?
Il faut d'abord replacer l'armée dans son cadre général.
Oui.
Tous les hommes de l'Antiquité étaient croyants. Mon directeur de thèse, Marcel Leglet, disait que l'incroyant était un oiseau rare. Et moi, je lui disais, et même très rare, et nous étions d'accord là-dessus. Donc, tous ces hommes, tous les humains sont croyants. Les soldats également, puisqu'ils font partie de la société de l'époque. Alors, il y a tout au long de l'année un certain nombre de cérémonies que nous connaissons grâce à un papyrus qui a été retrouvé en Syrie, le calendrier de Doura Europos, qui montre que très régulièrement, il y avait des célébrations religieuses quand les soldats étaient au camp. Quand ils allaient en campagne, ils imaginaient que les dieux, leurs dieux, les accompagnaient. Et quand ils entraient, quand ils passaient au combat, quand il y avait une bataille, les soldats étaient persuadés que leur dieu était au-dessus et qu'ils combattaient les dieux des ennemis. Il y avait donc un combat en trois dimensions, si on peut dire, un combat terrestre et un combat céleste. Et le combat terrestre n'était que la transposition sur terre de ce qui se passait en l'air. Les dieux combattaient pour protéger les Romains, mais bien évidemment, ils pouvaient leur donner des conseils auparavant, par exemple en leur faisant savoir que le moment n'était pas venu pour le combat, que il fallait attendre. Nous avons un exemple dans la première guerre punique où un amiral romain demande aux prêtres d'interroger les poulets sacrés. Les poulets sacrés qui ne veulent pas manger du grain, ce qui veut dire que le combat est déconseillé. Et puis, après la guerre, après la bataille, surtout si elle est une victoire, bien entendu, les soldats romains offraient un monument aux dieux qui s'appelle un trophée. Le trophée, c'est en fait un mannequin en bois sur lequel sont déposées des armes des vaincus et au pied duquel on dépose d'autres armes des vaincus. Et on peut, si on le souhaite, alors, et c'est comme ça que ces trophées sont très bien connus, le faire reproduire après dans les villes romaines en marbre ou en bronze.
Vous évoquez les poulets sacrés qui avaient
Oui.
refusé de manger du grain. Les
Oui.
généraux romains suivaient-ils toujours les oracles
Alors,
avant d'engager une bataille?
d'abord, beaucoup de généraux romains étaient croyants, comme leurs hommes. Et il y avait quelques incroyants. Et donc, dans cette anecdote que j'évoquais tout à l'heure, c'est une bataille navale qui doit s'engager. Et l'amiral romain, qui est un Claudius très aristocratique, très intellectuel et qui ne croit pas trop aux dieux et surtout pas à leurs manifestations, voulait absolument sa bataille. Or, les poulets sacrés, qui avaient peut-être le mal de mer, n'ont pas voulu manger. Du coup, il les a fait jeter à l'eau en disant, s'ils ne veulent pas manger, eh bien qu'ils boivent. Alors, ça nous fait sourire, nous, gens du XXIe siècle. Mais les soldats romains qui ont appris ça ont été complètement affolés, découragés. Ils se sont dit, les dieux ne veulent pas que nous combattions, et le général, l'amiral nous demande de combattre. C'est de la folie. Et ils ont été vaincus parce qu'ils sont partis au combat découragés.
Il y a d'autres exemples de ce type, Yann Le Bouec, où le général ne suit pas les oracles et est vaincu, si
Non,
c'était... Non?
je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je ne crois pas qu'il y en ait, même parce que c'était une sottise. Le général sait que ses soldats sont croyants et leur faire perdre confiance, c'est idiot.
Oui, il y avait peut-être la nécessité du combat aussi.
Oui, effectivement, quand les soldats sont obligés de combattre, là. Et ils combattent et ils espèrent que les dieux les soutiendront et que s'ils ont dit d'abord, si les dieux ont déconseillé le combat, ils espèrent que les dieux changeront d'avis parce que s'ils ne peuvent pas faire autrement, évidemment,
Il
ils
aurait
sont
fallu
obligés de
changer
se
les poulets
battre.
et mettre des poulets plus affamés,
Voilà.
moins bien nourris peut-être. Hein? Nous avons le message d'un auditeur. Je vous le propose, Yann Le Bouec, et aussi sans doute de le garder lorsque Nous aborderons la période qui est concernée. Cet auditeur évoque la résistance à l'Empire romain, mais en Lusitanie, avec Pélage et Uniatou.
Avec Viriat, surtout.
Oui.
Mais, en
Lusitanie.
Alors, la conquête de la péninsule ibérique, qui comprend l'Espagne et la Lusitanie, c'est-à-dire en gros le Portugal actuel, cette conquête a duré à peu près 2 siècles. Elle a commencé quand les Romains sont entrés en Espagne pour en chasser les Puniques au cours de la Deuxième Guerre Punique, puisque les Puniques apportaient tout leur soutien à Hannibal, et elle s'est poursuivie petit à petit avec des temps de répit, des temps d'accélération, et il y a eu à un moment donné un certain Viriat, donc qui a réussi à rassembler une grande partie de la population espagnole, mais les Romains, il faut bien le dire, étaient d'un côté très courageux, très compétents, très efficaces au combat. Et d'un autre côté, ils étaient quand même assez vicieux, ils étaient très capables de diviser leurs ennemis, d'utiliser des habitants de la péninsule ibérique, des Espagnols, des Lusitans, dans leur armée comme auxiliaires.
Ben nous l'aborderons en effet au moment des guerres puniques et puis les grandes batailles qui suivent, notamment le fameux siège de Numance. Hein.
Siège de Numance, oui.
Très impressionnant ce que vous en racontez dans votre livre « Les Romains au combat ». Alors Yann Lebec, je vous propose de revenir justement à l'histoire en partant justement des origines. Et dans le premier chapitre, vous le faites partir justement de ses origines jusqu'à 509, et époque où les ennemis de Rome était une colline, enfin vous allez bien sûr nous le rappeler, était une colline, une tribu parmi d'autres tribus qui sont des ennemis, et leurs ennemis majeurs étant les Latins, les Sabins, mais aussi les Étrusques. Alors je vous laisse évoquer cette période qui est assez méconnue. C'est la naissance de Rome. Et puis, bien sûr, comment cette armée se crée. Et puis, comment ils arrivent à s'étendre, à vaincre justement ces Sabins, ces Latins et ces Étrusques. Cette date que vous avez choisie, et vous allez nous expliquer pourquoi, de 509. Comment ça se passe?
Alors, de 753 à 509, 753, c'est une date complètement inventée, mais vraisemblable, c'est entre 750 et 700 que Rome est née, a été organisée comme ville, et 509, c'est une date aussi qui est approximative, dont on n'est pas absolument sûr. C'est la tradition qui nous dit que cette période, 753-509, c'est la période de la monarchie. Alors, pendant cette monarchie, il y a eu 7 rois, dont le premier est Romulus, qui a fondé la ville de Rome, évidemment. On ne sait pas très bien, évidemment, comment cela se passait au début. Hein, nous manquons de sources. Même l'archéologie elle-même est souvent défaillante. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une population de bergers, essentiellement, et c'est une population de pillards qui s'installe à Rome. Ce sont des Latins. Ils parlent une langue latine, mais leurs ennemis, ce sont évidemment, comme toujours, hein, ce sont les voisins et pas des gens lointains. Donc ce sont les Étrusques qui vivent sur la rive droite et qui sont en grande partie d'ailleurs responsables de la naissance de Rome. Puis les Latins et les Sabins qui étaient installés sur la rive gauche du Tibre. Et il y a eu toute une série de guerres. Honnêtement, on ne peut pas trop entrer dans le détail parce que ce sont des guerres qui sont très largement, très peu connues et très largement inventées, remplies de mythes, de récits incroyables.
Mais c'est Latins, Sabins, Étrusques qui sont tous cousins? C'est oui, clanique que, ce
alors,
sont, ce sont des clans, mais des clans cousins entre eux. Vous dites que les Étrusques sont co-responsables à la naissance de Rome. Et d'ailleurs, il y a eu des rois de Rome hein, qui étaient Étrusques.
Alors, oui, les trois derniers rois de les quatre premiers rois étaient latins et les trois derniers étaient étrusques. Alors, cette distinction, la définition des latins, c'est une définition linguistique. La langue latine est une partie de la langue italienne, est un des dialectes de l'italien, et les langues italiennes sont une partie des langues indo-européennes. Les Étrusques, eux, sont sur la rive droite du Tibre, et ce sont des gens qui ont reçu incontestablement de fortes influences orientales et de fortes influences grecques. Alors, il y a eu beaucoup d'études, de discussions pour savoir d'où ils venaient, pardon. Certains pensaient qu'ils venaient de l'Orient, carrément. D'autres qu'ils ont été simplement soumis à des influences orientales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont connu, ils ont subi des influences grecques et qu'ils se sont bien entendus, au moins à un moment donné, avec les Carthaginois.
Mais qu'est-ce qui fait que durant cette période assez méconnue, justement, que 753-509, que Rome est sortie vainqueur? Est-ce que déjà son
Alors,
armée s'organisait?
voilà.
Comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu, vous évoquez par exemple Servius Tullius, qu'est-ce qui leur a permis justement de sortir, commencer à s'agrandir en quelque sorte, au
Alors,
détriment de ces Sabins, de ces Étrusques, qui vaincront définitivement d'ailleurs un peu plus tard?
d'abord, il y a chez les Romains quelque chose d'assez extraordinaire, hein. C'est un peuple guerrier. Ça ne s'explique pas, hein, si vous. Quand on a des enfants, on sait qu'il y en a qui sont sages et d'autres qui sont plus agités. Les Romains, eux, étaient parmi les agités. C'était des combattants, c'était des pillards, je crois l'avoir déjà dit. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait organiser ces bandes de pillards, en faire une véritable armée. Et le principe a été un principe aristocratique, c'est-à-dire que les nobles, ceux qui préfigurait la noblesse, combattaient à cheval parce qu'ils étaient les plus riches, et les fantassins combattaient sur trois lignes et avaient un armement qui était fonction de leur fortune parce que dans l'Antiquité, c'était le soldat achetait tout, y compris son armement et surtout son armement d'ailleurs, parce que c'est évidemment fondamental pour un soldat, hein, même de nos jours. Le simple soldat sait que son fusil est son meilleur ami. Et ces nécessités financières ont amené l'armée à se mettre sur trois lignes, ce qui était exceptionnel dans l'Antiquité, ce qui permettait aux Romains d'abord d'envoyer les plus jeunes, les plus dynamiques combattre, et ensuite, quand ils étaient fatigués, de les retirer et de mettre en avant la deuxième ligne. La troisième ligne, normalement, ne combattait pas. Elle était composée par de très vieux soldats qui avaient pour mission essentielle de repousser vers l'avant ceux qui cherchaient à aller vers l'arrière et éventuellement de les tuer, de tuer les fuyards.
Donc ce système à la fois tactique sur trois lignes et le fait que les prolétaires n'étaient pas admis au service armé, ça apparaît durant justement cette haute époque de la naissance de
Oui.
Rome. Et c'est ça qui donne la supériorité aux armées romaines
Je le pense.
sur
C'est ce...
les voisins, sur les tribus
c'est
voisines.
tout, c'est tout. En fait, la supériorité, c'est tout un ensemble de facteurs qui l'expliquent. Il y a le choix des soldats. Le mot légion, dès l'origine,
Oui.
est apparenté au verbe diligere, qui veut dire choisir. Le légionnaire est un homme choisi. Ce qui veut dire qu'on le prend parce qu'il est le meilleur et qu'on met de côté ceux qui sont moins bons. Il y a donc le choix du soldat au moment du recrutement. Ensuite, il y a la qualité de l'armement. Les Romains ont toujours attaché beaucoup d'importance à la qualité de l'armement. Et c'est parce que le soldat le payait, évidemment, qu'il tenait à avoir le meilleur armement possible parce que c'était son assurance-vie. Si je puis ainsi m'exprimer. Et puis, il y a cette tactique sur trois lignes, qui est le troisième dernier élément, le plus important pour expliquer les succès de l'armée romaine, les premiers succès.
Donc déjà à cette époque, 7e, 6e siècle, eh bien l'armée romaine, celle qui va dominer le monde occidental, elle est déjà là en puissance. La sélectivité,
Oui,
la qualité de l'armement et justement cette organisation tactique avec en trois lignes.
trois lignes et un bon encadrement de cavalerie.
Déjà la cavalerie à cette époque. Alors vous écrivez d'ailleurs que c'est la cavalerie qui a engagé le combat en premier.
Non,
Non?
c'est l'infanterie légère.
Ah, ce n'était pas la cavalerie à l'époque.
Non,
Bon,
il y avait une
c'est venu
infanterie
après.
légère qui ne faisait pas partie de la légion proprement dite, qui était en avant et qui lançait des flèches, des pierres, tout ce qu'elle pouvait lancer sur l'ennemi, de façon à tuer quelques ennemis et à porter atteinte au moral des soldats qui étaient en face d'eux.
Mais comment a-t-on découvert tout ça? C'est quand même une époque très, très ancienne. Il n'y avait pas d'écrit. J'imagine, comment Yann Le Bouec
Non,
avez-vous découvert tout ça?
on part de deux choses. La première, ce sont des récits. Premier élément, première partie du dossier, ce sont des récits qui sont très postérieurs. Et évidemment, ils sont remplis d'anachronismes, d'inexactitudes, de confusions. Donc, il faut les lire très attentivement, très lentement, et faire le tri. C'est le métier de l'historien.
Oui.
Faire le tri entre ce qui est vraisemblable, ce qui est invraisemblable, ce qui peut être vrai et ce qui ne l'est certainement pas, d'une part. Donc les textes, ça, l'historien de l'Antiquité, à mon avis, ne peut pas ne pas partir des textes.
Alors
Ensuite,
ces
il y a
textes,
quelques
ces titres livres, cette
ces petits livres notamment, mais c'est aussi Diodore de Sicile également. Et quelques autres. Et puis souvent, les choses les plus intéressantes se trouvent dans des tout petits textes. Un auteur dont on ne connaît qu'on ne possède que 15 lignes, eh bien, ces 15 lignes peuvent être riches d'enseignements, et c'est pourquoi elles ont été conservées d'ailleurs. Et puis il y a un deuxième élément qui est l'archéologie. Le vase de Palestrina ou le guerrier de Capestrano, pardon, je n'ai pas trouvé plus le nom.
Oui.
Palestrina ou Capestrano. Donc, le vase de Palestrina montre une armée qui défile avec des fantassins, des cavaliers. On voit comment ils sont armés, ce qui est un élément important. Le guerrier de Capestrano, c'est une grande statue, un grand bonhomme, qui est visiblement un soldat et probablement un officier. Alors il a un grand chapeau, ce qu'on appelle un protège-cœur et une grande épée.
Et de toute cette période, Yann Le Boëc, donc qui court de 753 jusqu'à 509, mais même au-delà, y a-t-il des batailles particulières que vous voudriez mentionner, ou des faits d'armes,
Non,
ou des
franchement,
sièges?
non.
Non.
Non, non. Il y a beaucoup de récits, évidemment, qui sont plus ou moins mythiques. Mais bon, les périodes ultérieures sont quand même plus intéressantes, parce qu'elles sont mieux documentées.
Alors 509, pourquoi cette date?
Parce qu'en 509, d'après la tradition, il y a une révolution à Rome. Jusqu'en 509, la cité romaine était dirigée par un roi qui assistait à un sénat. Le sénat discutait, mais c'était le roi qui décidait. En 509, le dernier roi, qui est un Étrusque, est tué, chassé, tué, chassé, et remplacé par un régime aristocratique qui restera jusqu'à l'Empire romain et qui s'est couvert de gloire à certains moments, notamment pendant les guerres puniques.
Et cela a des conséquences sur l'organisation de l'armée romaine, ce changement de régime?
Non. Non, non, non. Non. Les nobles avaient toujours constitué l'encadrement de l'armée romaine. Il reste officier de l'armée romaine, si on peut dire, et ils sont en même temps les sénateurs. Là, ce qui change, c'est un changement politique, puisque c'est le Sénat qui décide de faire la guerre ou non, alors qu'auparavant, c'était le roi. Et c'est le Sénat qui décide des changements de l'armée. Auparavant, c'était le roi. Mais les changements sont progressifs, ils sont lents, ils sont liés à des circonstances tout à fait étonnantes, tout à fait rares, exceptionnelles, quand on découvre que l'ennemi a un armement plus utile que celui des Romains, donc on l'emprunte, etc. Mais bon, tous ces changements sont très lents.
Lorsque Rome passe au système, au régime aristocratique, le territoire de Rome s'est-il agrandi?
Non, pas vraiment. Rome reste une cité jusqu'en 340, jusqu'à la bataille de Trifanum que vous avez évoquée tout à l'heure, que j'ai appelée une bataille fondatrice.
Alors, je vous propose que nous abordons cette période où justement la situation de Rome, et notamment la situation géographique de Rome, va changer avec, en effet, un certain nombre de guerres qui vont se dérouler de 390 à 340. Là, en quelque sorte, on a l'impression que les affaires sérieuses commencent pour les armées
Voilà.
romaines.
Donc les
390. Pourquoi 390, d'ailleurs? Les choses stagnent un peu jusqu'en 390, mais en 390, visiblement, il y a de
c'est
grands
l'arrivée des
changements.
Gaulois.
C'est la faute des Gaulois. C'est l'arrivée
C'est
des
la faute des
Gaulois.
Gaulois en partie.
C'est Brennus.
Voilà, c'est Brennus. Jusqu'en 390, les Romains se battaient seulement contre leurs voisins. Et puis en 390, ils n'ont rien fait, hein, ce n'était pas de leur faute. Sont arrivés ces Gaulois qui venaient de la vallée du Danube, qui s'étaient installés dans l'Italie du Nord actuelle, dans la plaine du Pô, et le long de l'Adriatique, et qui, comme les Romains d'ailleurs, hein, étaient des pillards purement et simplement, hein, quand ils faisaient la guerre pour prendre les biens des autres. Donc Brennus est arrivé jusqu'à Rome, il a assiégé la ville. Les Romains ont fait ce qu'ils ont pu pour l'en empêcher, mais finalement, ils ont dû se rendre. Ça a amené pour la première fois un ennemi extérieur. Mais à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Les Gaulois étaient bon, des gens courageux, de bons soldats, mais ils n'ont pas bouleversé l'art militaire de l'époque.
Alors après les Gaulois, quelles sont les guerres qui vont changer
Alors après,
complètement la
en
situation
même
de
temps,
Rome? Juste une question, pardonnez-moi, Yann Lebec, pour venir aux Gaulois et à Brennus. Pourquoi ne s'en sont-ils pas installés? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à dominer la région puisqu'ils les avaient vaincus, ces tribus du Latium?
Les Romains,
Non, les Gaulois,
ah non, les
Brennus.
Gaulois,
Parce qu'ils se sont retirés, ils ont eu leur poing en or.
ils venaient uniquement pour le pillage. Ils ne cherchaient pas à créer un État, ils ne cherchaient pas à créer un empire. Ils voulaient simplement piller, avoir de l'or, avoir des femmes, parce que les femmes faisaient partie du butin, avoir des bœufs, du bétail, du blé, c'est tout. Ils n'avaient pas d'ambition territoriale.
Le bouclier de Brennus, le trophée rubistique, c'est lié à Brennus, le Gaulois qui a pillé
C'est
Rome, hein?
au rugbyman qu'il faut le demander,
Comme
je
vous n'êtes pas
pense, oui.
rugbyman, Yann Le Boeck. Peut-être un auditeur de Radio Courtoisie pourra nous renseigner hein, sur l'origine
Voilà.
du bouclier de Brennus, le trophée national hein, des
Je
joueurs
m'intéresse au rugby, mais je
des
ne
joueurs
m'étais pas
de rugby.
intéressé à cet aspect du problème.
Donc, il y a la guerre d'ici, la guerre importante de cette période 390, effectivement, ce sont les raids gaulois qui auraient pu amener en quelque sorte à la disparition de Rome, mais les Gaulois sont des pillards, et une fois que le pillage est terminé, ils repartent. Je vous propose une pause musicale que nous abordions les guerres suivantes, parce que les guerres suivantes sont très importantes pour, nous allons le voir, hein, contre les Samnites, les Sabins, etc. C'est très important pour l'histoire à la fois, bien sûr, de Rome, mais aussi celle de l'armée romaine. Alors nous faisons une petite pause, Yann Leboeck, un message de la radio, et puis nous écoutons quelques instants une sonate de Bach, le Vivace de la sonate pour viol de gambe de Bach. Je vous épargne Weekend à Rome d'Étienne Daho cette fois-ci. Hein. Mais nous écouterons un peu de Bach et nous reprenons donc avec vous pour la suite de cette histoire militaire de Rome.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
De Radio Courtoisie, nous reprenons cette discussion avec Yann Leboeck qui vient de nous expliquer que durant 4 siècles de la date de la fondation de Rome, en 753 jusqu'à à peu près 390 avant Jésus-Christ, eh bien, Rome reste cette tribu latine, alors très bien organisée, qui résiste parfaitement à ses adversaires locaux. Ils sont leurs cousins étrusques, leurs cousins sabins, etc., installés les uns et les autres de part et d'autre du Tibre, mais que finalement il n'y a pas réellement d'expansion géographique, même si Rome déjà organise très bien, nous l'avons vu grâce à Yann Leboeck, son armée avec une sélection. Seuls les aristocrates, en quelque sorte, ceux qui ont les moyens, les prolétaires en sont exclus, parce qu'il faut payer ses armes, et puis il y a une belle organisation tactique sur 3 lignes. Mais les positions restent quasiment durant 4 siècles figées. Alors, il y a ce raid, effectivement, de pillards gaulois, qui, une fois que l'or a été récupéré, eh bien, donc les Gaulois de Brennus repartent. Et nous en arrivons maintenant, en effet, à une période qui est décisive, qui va durer à peu près 80 années, qui est celle de la conquête de l'Italie. À peine un siècle, alors que les positions ont été figées, sur ces collines autour du Tibre, eh bien, même pas un siècle, Rome va conquérir toute la péninsule qui constitue l'Italie. Alors, c'est ce que nous allons bien sûr voir avec notre invité, Yann Le Boeck. Mais Yann Le Boeck, j'ai deux messages d'auditeurs, si vous voulez bien, à vous proposer. Je vous les lis. Alors, peut-être aussi, l'un des auditeurs parle d'Alexandre Le Grand. Peut-être que nous devrions garder cette question, comme vous souhaitez, pour plus tard. Alexandre Le Grand a-t-il eu des contacts avec Rome ? On sait que ses descendants, oui, ils seront vaincus par Rome, mais lui-même...
Voilà. Et lui-même a servi de modèle à tous les généraux de l'Antiquité.
Oui.
Pas seulement les Romains, mais aussi Hannibal. Hannibal est un élève d'Alexandre. C'est un personnage considérable, mais comme vous le savez, toute la politique d'Alexandre était dirigée non seulement vers l'Orient, mais même vers l'Extrême-Orient,
oui.
Puisque ça consistait en... une guerre victorieuse contre l'Iran, et puis ensuite il est allé jusqu'en Inde. Pour lui, l'Occident ne représentait pas grand-chose. Ce sont les Occidentaux qui, eux-mêmes, se sont rendus compte qu'il y avait là un personnage exceptionnel, et je crois que c'était le plus grand des généraux de l'Antiquité. Le second est peut-être Hannibal. Je mettrai en troisième et quatrième Scipion et César.
Ah, vous mettez Scipion derrière Hannibal, donc c'est malgré Zama. Ah, oui. C'est comme, bien comme Waterloo. Hein. Wellington est derrière Napoléon. Oui. Donc vous répondez à cette question.
je le mets au. C'est une supposition. Hein.
Ah bon.
Je ne parierai pas mes deux mains à couper.
Oui.
Mais. Que c'est elle.
Oui. De toute façon, nous allons parler effectivement ainsi ce match, hein, si on peut utiliser ce terme entre Scipion.
Non, incontestablement, Alexandre le Grand a été le plus grand général de l'Antiquité. Mm-hmm. Et ensuite, soit Hannibal, soit Scipion. Mm-hmm. J'ai un ami italien qui tient absolument à Hannibal. Hannibal.
Ah oui.
Il a même écrit un Scipion pour prouver que Scipion était moins bon qu'Hannibal. Mais
qu'il soit italien.
Ah oui, justement, c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas de favoritisme pour cette raison. Hein.
Oui. Mais quand vous nous expliquez qu'Alexandre a vraiment été un modèle, à la fois pour les armées romaines, pour les chefs romains, mais aussi pour Hannibal, comment ça se passe dans l'Antiquité ? Comment Alexandre, ça a duré une dizaine d'années, cette épopée incroyable, comment peut-il servir de modèle ? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont écrit, qui ont témoigné, qui ont rapporté ces tactiques, ces faits, ces gestes.
Bien sûr, il y a toute une littérature sur Alexandre qu'un historien du monde grec vous présenterait mieux que moi. L'historien de Rome ne peut pas l'ignorer. Donc il y a toute une littérature qui rapporte les exploits d'Alexandre. Et alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau tactique. Où, grâce à son courage, l'utilisation des sarisses qu'avaient ses soldats, ses combattants, il a remporté un grand nombre de batailles. Et puis il y a surtout l'aspect politico-stratégique, si je puis ainsi m'exprimer. Alexandre est quelqu'un qui a accompli des exploits en allant dans des pays où personne n'était jamais allé avant lui. Donc c'est un modèle de courage, mmh. d'invention, de dynamisme, et quelqu'un qui n'a jamais eu de mépris pour les ennemis, les Iraniens comme les Indiens. D'ailleurs, il aurait été très, très heureux d'avoir des relations amicales avec eux, plus que des relations belliqueuses.
Mmh. Et puis, nous avons aussi cette question d'auditeur. Combien de kilomètres par jour pouvait réellement effectuer une légion romaine ?
Alors, une légion romaine faisait très peu de kilomètres par jour, pour la raison toute bête que la légion avait avec elle du matériel en grande quantité qui était tiré par des bœufs, sur des chariots tirés par des bœufs. Et un bœuf, si vous lui faites faire 9 km par jour, ça suffit à son bonheur. Donc les légions romaines, normalement, ne faisaient pas plus de 9-10 km par jour. Mais quelquefois, quand il fallait surprendre un ennemi, les légionnaires pouvaient être équipés à la légère, alors ils laissaient tout tomber, sauf l'armement indispensable, les vivres indispensables, et là ils pouvaient arriver à faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour.
40 km à peu près, enfin, c'est ce que cite cet
40 au moins,
auditeur.
oui,
Au moins
au moins 40.
40 km, oui.
Ah oui, au moins 40.
Ça n'a guère changé, Yann Leboeck. Vous expliquez dans votre livre que le paquetage de ce légionnaire romain, c'est une trentaine de kilos. S'il nécessitait une quarantaine de kilomètres par jour, c'est ce qu'on fait toujours dans les armées. Quand on est à pied, le paquetage fait toujours une trentaine de kilos. Et la distance parcourue quand il y a nécessité, c'est une quarantaine de kilomètres. Il y a des invariants, quelle que soit l'époque, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, effectivement.
Yann Leboeck, je vous propose donc de revenir à cette période qui va marquer l'expansion de Rome, après 4 siècles à peu près, où Rome ne s'étend pas, se défend sans doute contre ses voisins. Et là, en un peu moins d'un siècle, eh bien, Rome va conquérir la péninsule italienne. Qu'est-ce qui fait ce changement?
Alors, ce qui fait le changement, c'est que les Latins en ont eu assez de Rome. C'était des voisins qui étaient pillards, turbulents, qui les agressaient sans cesse. Ils ont créé une ligue et ils ont décidé, avec cette ligue, de détruire la cité romaine. Et on va détruire Rome, détruire son armée, tuer tous ses combattants et réduire le reste en esclavage. Donc, il y a eu une guerre de la Ligue latine contre Rome. Et les Romains en sont sortis vainqueurs grâce à cette bataille de Trifanum en 340 avant Jésus-Christ, qui a mis un terme au combat, qui a permis à la guerre, qui a permis à Rome d'imposer la dissolution de la Ligue latine. Et à partir de ce moment, le Sénat romain, nous sommes dans un régime totalement aristocratique à ce moment-là, hein, le Sénat romain a créé un état territorial avec le latin, les Latins. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire en esclavage les vaincus, les Latins, les Romains en ont fait pratiquement, pas tout à fait leurs égaux, mais presque leurs égaux, et ils ont créé un état territorial avec une armée nombreuse. Et à partir de là, donc cet état territorial avec une armée qui correspondait au Latium, bien entendu, hein, et une armée nombreuse, cette armée nombreuse, efficace, a conquis toute l'Italie. Alors quand je dis l'Italie, c'est la péninsule seulement, hein. Ça exclut les îles et ça exclut la plaine
Oui.
du Pô, a conquis toute l'Italie entre 340 et 264, donc en une soixantaine d'années.
Alors,
Faut
264, en effet, c'est la victoire, la prise de Volsigny.
Voilà,
Et
une dernière
dont.
cité étrusque
Oui.
qui n'était pas obéissante.
C'est ça. Alors, nous allons quand même parler en détail, si vous voulez bien, de cette période. Parce que il y a les raisons de la bataille de Trifanum, hein. Vous rentrez dans l'histoire de ces batailles, Yann Leboeck, hein, puisque l'objet de votre livre, je rappelle le titre, Les Romains au combat, grandes batailles et grands sièges. Et cette bataille de Trifanum, dont vous dites qu'elle est sous-estimée, hein, par la plupart des historiens, vous la
Effectivement, oui.
présentez comme capitale. Capitale parce que, en effet, Rome n'est plus Rome. Rome devient en fait la capitale. D'un territoire dans lequel sont intégrés, comme citoyens romains aussi, les vaincus, hein, les Latins de cette ligue latine. Il y a déjà à l'époque cette notion de citoyenneté romaine?
La citoyenneté romaine existe des origines, hein, depuis l'origine. Rome est une cité. Ça n'est pas une tribu, hein, les Romains ne constituent pas une tribu, les Latins non plus. Ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait adaptés.
Oui.
C'était une cité. La cité, c'est une ville avec son territoire rural. Et Rome était une cité, comme tous les peuples voisins, les Sabins, les Latins, les autres Latins. Les Étrusques étaient divisés en cités qui combattaient Rome. Et donc, à partir de Trifanum, les Romains ont vaincu les ennemis les uns après les autres. et se sont étalés à toute l'Italie. Alors, ça les a amenés à rencontrer des peuples non latins, évidemment. Les Grecs qui étaient dans la plupart des grandes villes du sud de l'Italie, notamment Naples.
Oui, Yann Le Bouec, nous allons en parler, en effet. Hein, il y a l'expansion contre les Grecs. Avant, il y a eu la victoire contre les Samnites. Et d'ailleurs, dans chaque guerre, il y a des termes qui sont restés. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail, si vous le voulez bien. Quand on parle, par exemple, après les fourches caudines, il y a les fantassins durent passer sous le joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi la victoire à la Pyrrhus. Il y a les molosses. Hein, quand on parle de molosses, des gros chiens patibulaires, eh bien, ça vient aussi de ces conquêtes. Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le détail de cette histoire militaire de Rome. C'est un moment capital parce que c'est là où Rome bâtit en quelque sorte un empire. Alors, j'aimerais savoir quand même pour quelle raison Rome devait être en infériorité numérique face à la Ligue latine. Pour quelle raison Rome triomphe de cette Ligue latine à la bataille des Trifanum?
Alors, le triomphe de Trifanum, c'est la victoire de Trifanum, c'est assez étonnant parce que ce n'est pas une vraie bataille rangée avec des troupes disposées sur le terrain qui attendent l'ordre. Les soldats romains étaient très exaspérés par la résistance des Latins et ils se sont jetés sur eux pratiquement sans attendre les ordres. Pour une fois, les officiers qui ont suivi les soldats et pas les soldats qui ont suivi les officiers. Et ils ont balayé les ennemis, les Latins, ce qui fait que bon, les officiers se sont fait une raison. Et ils n'ont pas obéi, mais enfin, puisqu'on a gagné, tant mieux.
Alors, nous avons d'autres messages d'auditeurs, mais là aussi sur des périodes postérieures. Donc, je propose de les garder. Un auditeur qui nous dit « Mais comment expliquer que Spartacus, l'esclave, ait pu vaincre les légions romaines ?» Eh bien, je vous propose que nous gardions cette question. Voilà, lorsque nous aborderons cette histoire, en effet, c'est une question qui est parfaitement intéressante. Et puis un auditeur aussi « N'avez-vous pas oublié vos frères bretons légionnaires qui ont pris le pouvoir à Rome en 384, commandés par le général Maximus ?» Eh bien, nous en parlerons à cette période. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette période particulière. On le voit effectivement, oui. Des barbares qui occupent des postes importants dans l'armée romaine ou même dans la vie politique à Rome. Et comment, Rien Boulay, revenons cette période clé. Après la bataille de Trifanum, vous écrivez que cette bataille permet la naissance de l'impérialisme romain entre 340 donc, et 338. Et comment Rome, qu'est-ce qui attire Rome justement, dans cette conquête impériale de toute la péninsule? Ils se disent, bah, finalement, on est vainqueurs, continuons. Quelles sont les raisons de l'expansion?
C'est quelque chose qui est assez étonnant. Il n'y a pas de programme de conquête élaboré par le Sénat. Bien au contraire, la religion et le droit, comme nous l'avons dit précédemment, le droit des fessiaux, des prêtres fessiaux, interdisait la politique agressive. Mais en fait, les Romains étaient attaqués par leurs voisins, ce qui était la tradition hein, dans l'Antiquité. Ils étaient attaqués par leurs voisins et à chaque fois, ou au besoin, bien entendu, hein, ils provoquaient les voisins pour les vaincre. Et à chaque fois, c'était les Romains qui gagnaient. Et donc, si vous voulez, l'impérialisme est né de la tradition, des habitudes, de l'empirisme, tout simplement. On remporte une victoire, on annexe un territoire, puis un autre, puis un autre, et avec beaucoup de changements. Parce que dans cette période entre 338 et 264, il y a eu comme ennemi donc les Grecs dont nous venons de parler.
Oui.
On aurait pu parler aussi de Pyrrhus que vous avez.
Et oui, il faut que nous parlions. Il faut en parler en détail. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, Yann Le Bouec. Alors, parce que si je comprends bien, c'est que une victoire en quelque sorte en entraîne une autre, une conquête en entraîne une autre à partir de cette bataille décisive de Trifanum où le Sénat romain réagit très intelligemment puisqu'il intègre réellement les tribus latines. Dans cette citoyenneté, enfin le tribus n'est pas le bon terme, vous nous l'avez expliqué, mais les voisins latins, hein, les autres cités latines, donc dans cette citoyenneté romaine, ce qui va leur donner une force armée importante. Mais à chaque fois, Rome gagne à cette époque pour les raisons que vous nous avez expliquées, à la fois la qualité des soldats, du commandement, l'entraînement, et puis la tactique, là, les fameuses les trois lignes au combat. C'est toujours pour ces raisons que Rome l'emporte, en quelque sorte, sur ses voisins.
Oui, absolument. Ça donne une supériorité aux Romains. Et en outre, ils sont capables de s'adapter. Parce que dans cette période, nous avons aussi le cas des Samnites.
C'est ça.
Que vous avez évoqué à propos des fourches caudines.
C'est ça, j'ai envie que vous en parliez.
C'est des gens qui vivaient dans des montagnes dans l'Apennin, au sud-est de Rome. Et ces Samnites étaient de très bons combattants. La meilleure preuve, c'est qu'ils ont réussi à encercler des Romains et à les faire passer sous le joug.
Alors qu'est-ce que c'est joug, que c'est quoi c'est... Le,
un joug, c'est une pièce de bois qu'on met sur deux bœufs pour leur demander de tirer la charrue. Et ce qu'on met sous le joug, normalement, c'est des bœufs. Et si on fait passer des soldats sous le joug, ça veut dire qu'ils sont comme des bœufs, c'est-à-dire qu'ils sont privés de leurs attributs virils. Ce ne sont pas des hommes, ils se sont rendus, ils ont été vaincus.
Mmh.
Bon, les Romains se sont rattrapés après, ils ont remporté la bataille et vaincu les Samnites. Du point de vue militaire, ce qui est intéressant dans ce combat contre les Samnites, c'est que ce peuple vivait dans des montagnes, avec des vallées étroites. Et dans ces vallées étroites, la légion disposée sur trois lignes, c'était inefficace. Et les Romains ont su s'adapter en utilisant, contre les Samnites, des unités plus petites qui pouvaient entrer dans ces vallées, dans ces montagnes, et vaincre les Samnites. Car finalement, les Samnites ont été vaincus. Et c'était des guerres très longues.
Ça a duré combien de temps, cette guerre contre les Samnites ?
Bah à peu près tout le temps de cette époque, une cinquantaine d'années.
Donc ce sont des adversaires très coriaces, très vaillants.
Très vaillants, mais ça n'est pas une guerre continue. Hein. Les historiens distinguent trois guerres samnites, mais en fait, ce ne sont pas. C'est un petit peu inexact. C'est une simplification. C'est pratique pour à retenir, mais en fait, c'est un conflit qui est permanent. Avec des crises, des explosions plus violentes qu'on appelle les guerres samnites.
Mais lorsque les Samnites ont été vaincus, le Sénat romain a-t-il eu la même attitude à leur égard qu'avec les Latins, c'est-à-dire leur proposer la citoyenneté, tout simplement, d'intégrer Rome ?
Donc, en fait, pour schématiser, parce que les questions juridiques sont assez complexes, pour schématiser, nous dirons que les Romains étaient les maîtres de l'Italie, avec comme associés, mais des associés situés un peu en dessous, les Latins. Et ensuite, petit à petit, tous les Italiens sont devenus eux aussi des associés, toujours à un niveau inférieur.
C'est-à-dire que lorsque Rome avait vaincu... Dans cette péninsule, la population n'était pas transformée en esclaves.
Ah non, pas du tout.
Les hommes massacrés, les femmes.
Bien au contraire, ça donnait des soldats. Beaucoup de Latins et beaucoup d'Italiens ont reçu la citoyenneté romaine et donc ont pu servir dans les légions. Et il y a un phénomène extraordinaire qu'on oublie aussi très souvent pour expliquer le succès des Romains, c'est leur démographie. Quand Hannibal entre en Italie, il a 20 000 hommes, un peu plus de 20 000 hommes seulement. Les Romains peuvent aligner une armée de 20 000 hommes contre Hannibal sans problème. Et en fait, quand Hannibal réussit à avoir, en recrutant des mercenaires, des alliés, etc., une véritable armée, les armées de l'époque faisaient 40 à 50 000 hommes. Les Romains avaient la possibilité, grâce à cette démographie de l'Italie, d'aligner 10 armées contre Hannibal. Donc Hannibal détruisait une armée romaine, c'est évidemment très dramatique, mais les Romains pouvaient aligner une deuxième armée, puis une troisième, puis une quatrième.
La force de Rome, c'est donc aussi d'avoir réussi à intégrer à leur système les vaincus, sans être dur.
Absolument, oui.
Ça, c'est particulier à Rome parce que Bon, on pense, alors, c'est-à-dire, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais quand on regarde les conquêtes des temps modernes, ça n'est pas trop le cas. Et d'ailleurs, les conquérants ont eu amèrement à le regretter, certainement. Ça, c'est vraiment une force de Rome. Mais ça ne sert pas trop d'exemple, finalement.
Absolument. Les Romains avaient une exigence. Un Italien, un Latin, un Italien, Campania, Samnite ou autre, pouvait devenir citoyen romain, mais à la condition de se conduire en citoyen romain, oui. C'est-à-dire de prendre les habitudes de vie des Romains, de défendre l'État romain, de soutenir l'État romain. Et évidemment, il n'était pas question de donner la citoyenneté à des gens qui n'aimaient pas leur patrie.
Leur nouvelle patrie, oui.
Qui les accueillait.
Oui. Yann Le Boeck, vous nous avez expliqué les premières conquêtes territoriales de Rome. Ils ont vaincu la Ligue latine, ils ont vaincu les Samnites. Il reste la partie sud de la péninsule italienne, et que j'aimerais que vous évoquiez, si vous voulez bien, parce que là aussi, il y a des noms qu'on a cités tout à l'heure, qui sont restés dans nos mémoires, hein, les Molosses, le Pyrrhus, tout ça, ça évoque cette campagne contre les Grecs du sud de l'Italie. Alors pourquoi les Romains sont-ils rentrés en guerre contre les cités de la Grande Grèce, puisque les Grecs étaient depuis très longtemps, avaient colonisé depuis très longtemps le sud de la péninsule.
Et ces Grecs étaient des amis des Romains. Notamment la cité de Cume était alliée de Rome depuis très longtemps et a eu une influence culturelle, économique, peut-être militaire aussi d'ailleurs, on ne sait pas trop, sur Rome. Alors, évidemment, Rome avait lancé un processus impérialiste sur toute l'Italie et les Italiens devaient entrer dans ce processus. Et il s'est trouvé à un moment donné qu'il y a eu un conflit entre des cités grecques de l'Italie du Sud. Et certains de ces Grecs ont fait appel à un personnage qui était un roi hellénistique, sur le modèle d'Alexandre le Grand qu'on évoquait tout à l'heure, mais d'un tout petit pays qui s'appelait l'Épire. À l'époque, Pyrrhus était roi d'Épire et il avait une armée et comme celle d'Alexandre avec des phalangites équipées de la sarisse notamment et des éléphants. Et c'est là où les Romains ont vu pour la première fois des éléphants. Ce n'étaient pas des éléphants africains, c'était des éléphants qui venaient d'Asie. D'ailleurs, le cornac était appelé l'Indien par les Romains. Donc, ils ont vu. Pyrrhus a voulu intervenir dans le sud de l'Italie avec l'espoir, à partir de son petit domaine, l'Épire, qui était donc à l'est, dans la péninsule des Balkans, à l'est de la mer. Il a voulu intervenir en Italie du Sud avec l'espoir de se constituer un empire qui serait deux parties, Italie du Sud et Balkans. Et donc, certains Italiens l'ont accueilli avec plaisir. Les Romains n'ont pas voulu qu'il reste là. Alors, il a réussi à vaincre les Romains une fois, ce qui a été ce qu'on appelait une victoire à la Pyrrhus, parce qu'il avait perdu l'essentiel de ses éléphants, de ses soldats et surtout de ses officiers, ce qui était le plus embêtant. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire dans laquelle le vainqueur sort complètement ruiné, complètement épuisé.
C'est la bataille d'Asculum.
Voilà.
C'est simple.
Il a réussi donc à s'en sortir. Et puis, il y a eu un épisode sicilien. Il est passé en Sicile où il y avait aussi des cités grecques, Syracuse, Agrigente notamment. Taormina, Catane, pour n'en citer que celles les plus connues. Donc, il est passé en Sicile et il espérait que les Siciliens se joindraient à cet empire. Alors, vous voyez un empire Sicile, l'Italie du Sud, et pire. C'est évidemment géographiquement découpé, coupé en morceaux, mais ça aurait pu marcher. Cela dit, bon, les Siciliens ont manqué d'enthousiasme, les Italiens ont manqué d'enthousiasme, et les Romains, même s'ils ont été, leur est arrivé de subir une défaite, ont réussi à chasser Pyrrhus, qui est rentré dans son royaume et ne s'est plus occupé de ces questions. Et les Grecs sont petit à petit passés sous la coupe des Romains. En particulier, il y avait la Campanie et
Oui.
la région de Tarente, qui étaient des régions économiquement très riches, disposant de navires, de marins de très, très bon niveau, et qui ont contribué à la victoire des Romains par la suite.
Mais pourquoi les Romains ont-ils vu d'un mauvais œil justement cette incursion de Pyrrhus, puisque le sud de l'Italie et une partie de la Sicile étaient déjà grecs? En quoi cela les menaçait-il?
Ça ne les menaçait pas, mais ils
Mais
voulaient étendre leur empire
voilà, on
et
était dans le
Pyrrhus
réflexe
voulait
impérial,
étendre
quoi.
le sien.
C'est
Donc,
ça, oui. Oui.
le choc était inévitable.
Alors, qui sont ces molosses qui se sont manifestés à cette époque, justement, dans cette guerre entre Pyrrhus et Rome?
Les Molosses étaient un peuple des Balkans qui possédait des chiens particulièrement féroces. Et ils ont laissé leur nom à cause de cela. Mais bon, ce n'est pas un peuple extrêmement important à part ça.
Mais n'empêche que ça a traversé l'histoire quand même, les
Ah, ça
molosses.
traversait l'histoire, oui.
Et maintenant que
Comme
nous aurons des chiens avec de sales gueules, eh bien,
comme les.
on penserons à vous, Yann Le Bouec, à votre histoire sur les molosses. Non, pas pour les mauvais chiens, bien sûr, mais pour cette histoire qu'on découvre grâce à la lecture de votre livre. Je rappelle le titre. Les Romains au combat, grandes batailles et grands sièges que vous publiez aux éditions Talendier. Il nous reste 2 minutes à passer malheureusement en votre compagnie, mais nous avons vu quand même là, aujourd'hui, ce soir, plus de à peu près 4-5 siècles d'histoire militaire romaine, avec un changement très important, donc vous l'avez expliqué avec la bataille de Trifanum, qui a abouti à cette première création d'empire romain, avec une réserve démographique importante fondée sur celle des pays vaincus, ce qui permet à Rome en effet de contrôler toute la péninsule italienne, hein, s'est achevée quasiment donc avec la défaite de Pyrrhus. Il reste quand même une cité qui résiste, et ce sera la dernière bataille, ce que nous évoquerons en tout cas aujourd'hui avec vous, Yann Le Bouec, ce sont les Étrusques de Volsinii. Alors ils ont résisté
Alors,
tout le temps, tout ce temps-là ils ont résisté à Rome.
il y a plusieurs cités qui, c'était, si vous voulez, comme des éruptions de boutons, hein, quand on a un petit problème de santé. Et la dernière qui s'est révoltée contre Rome, c'est Volsinii, et qui finalement a été assiégée et prise. Alors, la polyorcétique, c'est aussi une des qualités de l'armée romaine, que nous n'avons pas évoquée, ou très brièvement. Elle était exceptionnelle.
Déjà à
Et
l'époque, déjà à cette époque.
ah oui, déjà à l'époque, la polyorcétique, c'est une tactique qui est extrêmement ancienne, qui remonte pratiquement, je crois que le siège le plus ancien, c'est des environs de 5000 avant Jésus-Christ.
Et combien de... Oui, Yann Le Bouec, ce sera la dernière question. Combien de temps a duré le siège de Volsinii?
Honnêtement, je ne m'en
Bon.
souviens plus.
Nous gardons cette question en réserve. Yann Le Bouec, merci beaucoup à vous d'être venu ce soir en direct de témoigner de cette histoire romaine avec la conquête de la péninsule italienne. L'auditeur nous pose une question sur la marine romaine et la manière dont elle naviguait. Mais nous gardons cette question aussi pour les prochaines émissions, si vous l'acceptez, Yann Le Bouec. Merci
Essentiel.
beaucoup à vous et à très bientôt, je l'espère, autour de l'histoire militaire romaine. Très bonne soirée.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Avec plaisir, Yann
Bonne
Le Bouec.
soirée.
À très bientôt.